non, il y a une vie après Normal.
Chers auditeurs, bonjour. Nous finissons cette semaine notre série de portraits consacrée aux quatre invités de la table ronde de l'Association des anciens élèves. Cette semaine, c'est Alice Bonhomme-Bier qui retrace son parcours qu'il a mené de Saint-Étienne à New York. Après un DUG Mass qu'elle a fait à l'université Lyon 1, elle suit le magistère informatique à l'ENS. Aujourd'hui informaticienne chez Google, elle fait partie de l'équipe Google Crisis Response. Cette équipe, qui a vu le jour suite au tremblement de terre en Haïti, utilise les technologies pour répondre aux crises humanitaires. Pour suivre les développements d'Alice Bonhomme-Bier, je vous invite à consulter la page du projet Google Crisis Response, que l'on trouve grâce au moteur de recherche bien connu. Avant de vous laisser écouter l'émission, l'équipe d'Une vie après Normal vous souhaite une bonne fin d'année puisque c'est le dernier numéro. Nous vous remercions de nous avoir suivis nombreux tout au long de l'année. À l'année prochaine pour de nouvelles rencontres. Bonne écoute!
Bonsoir à tous et... oui, on est presque le soir maintenant. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que je fais à Google et mon parcours de comment je suis partie de Saint-Étienne, ma ville natale, et donc arrivée maintenant à New York où je travaille pour Google. Je suis en fait de la même année, je suis rentrée la même année que Claire-Marie. On ne s'est jamais rencontrés, je crois. Mais c'est vrai qu'entre informatique et SVT, finalement, on n'était pas dans les mêmes parties de l'école, on ne sait pas forcément les mêmes choses. Voilà, mais pour remonter mon parcours, en fait, moi je vais commencer avant l'ENS. C'est quand j'ai commencé au collège, donc j'étais au collège à Saint-Étienne, et j'ai eu un cours d'informatique, enfin un cours, c'était un bien grand mot, hein, une activité informatique de quelques heures au collège, je crois une fois en quatrième, une fois en troisième, où j'avais fait du logo. C'est. À l'époque, on faisait des petits dessins avec une sorte de petite tortue. Et j'avais trouvé ça super marrant. J'avais beaucoup aimé. Donc, quand je suis rentrée au lycée, il y avait la possibilité de faire une option informatique. Alors, je me suis dit, ah, c'était super, super chouette, je vais continuer. Donc, j'ai fait une option informatique au lycée seconde, première, terminale. J'ai pris l'option informatique au bac. J'ai fait un bac scientifique, C, à l'époque. Et puis, quand est arrivé le moment du bac, je me suis posé la grande question, qu'est-ce que je veux faire après? J'aimais bien l'informatique, mais il n'y avait pas d'études d'informatique juste après le bac à l'époque. Et donc, j'hésitais. Et là, j'hésitais beaucoup entre... Il y a un côté de moi qui avait envie de faire du droit, d'aller, on va dire, sauver la veuve et l'orphelin. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait dans le sujet, mais ce que j'aimais à l'école, c'était les maths, l'informatique. Donc, ça me semblait un peu incompatible. J'ai beaucoup hésité entre faire ce qui m'attirait, ce que j'avais envie, mais d'un autre côté, il y a l'autre chose, faire ce que je savais faire. Donc, à cette époque, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Je me suis dit, écoute, continue à faire ce que tu sais faire, tu as des bonnes notes, ça marche bien, ça t'amuse, tu verras après ce que tu peux en faire. Donc je me suis dit, je vais continuer un peu plus scientifique, maths, informatique. En même temps, j'avais envie de partir de Saint-Étienne. Alors j'ai trouvé le DUG que je ne pouvais pas faire à Saint-Étienne et qui faisait un peu des maths. Et donc j'ai fait à cette époque un DUG maths appliquées et sciences sociales, où il y avait aussi une bonne composante informatique. J'étais à Lyon 1, à la DOA. J'ai appris plein de choses, notamment en informatique. Et à la fin de la deuxième année d'informatique, je me pose encore la deuxième année du DUG, je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire après? Peut-être une école, des écoles d'ingénieurs. J'avais pensé un peu à intégrer l'INSA. Et puis à la fin de l'examen d'informatique de deuxième année, ma professeure d'informatique, Odile Miyabota, me dit au moment où je rends ma copie, attends-moi à la fin, là, que tout le monde ait rendu ses copies, je veux discuter de quelque chose avec toi. J'ai hésité parce que tous les copains n'allaient boire qu'un coup. On se dit, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, bon, quand même, je vais attendre et puis on va discuter un moment. Et Odile m'a parlé du magistère d'informatique de l'ENS de Lyon. Et elle m'a dit, voilà, ça marche, l'informatique marche bien, si t'aimes bien, il y a un moyen de continuer à faire que de l'informatique purement, c'est d'aller faire ce magistère. Moi, j'étais à Saint-Étienne, toutes les études... les gens autour de moi avaient fait essentiellement des études courtes. le ENS, je ne connaissais pas, le monde des prépas, je ne connaissais pas, le monde des grandes écoles, je ne connaissais pas. Et je pense, en fait, c'était tant mieux parce que je ne savais pas forcément là où j'allais. Je lui ai dit, bah, pourquoi pas, c'est de l'informatique. Donc, j'ai déposé mon dossier et puis j'ai été prise. Et je suis arrivée, et les premiers mois ont été un peu un choc. Moi qui débarquais de la fac, je ne connaissais pas du tout ce monde de grande école, à tel voir, je n'avais jamais entendu l'X, je ne savais pas que c'était polytechnique. Et donc, il y avait tous ces gens qui parlaient autour de moi, j'ai fait, toi, tu as fait 3,5, 5 demi, etc. Et moi, je connaissais de rien. Mais par contre, tout ce qu'on a enseigné de la partie informatique était passionnante, que ce soit les profs, les sujets, etc. Et puis, on a eu une très bonne cohésion. Le groupe où on était, on a vite sympathisé. C'était vraiment super. Et très vite, je me suis sentie bien. Deuxième année, j'étais au BDE de l'école. Ça se passait bien, etc. Et donc là, je me suis dit, j'ai trouvé ma voie. Je continue. Donc, licence, maîtrise, DEA. Après DEA, logique, on fait une thèse. Et puis pendant tous ces temps-là, donc, j'étais focalisée vraiment sur apprendre un peu le côté technique, l'informatique. Et puis à la fin de la thèse, je me suis dit, rebelote, qu'est-ce que je fais ? Et donc, entre est-ce que je continue plutôt dans la recherche académique ou j'avais fait ma thèse en financement CIFRE, donc en financement industriel. Donc j'avais eu un petit peu contact avec l'industrie et il y avait des choses assez intéressantes que j'aimais bien. Donc j'ai hésité, je me suis dit, bon, j'essaye un post-doc. Et puis si ça marche pas après je peux aller dans l'industrie. Donc j'ai fait un post-doc sur Paris, ça s'est pas très bien passé, c'était pas très dans l'équipe où j'étais, c'était pas très motivant, etc. Donc au bout d'un moment j'ai laissé tomber, je suis allée travailler dans l'industrie pendant 2 ans où j'ai appris justement le côté un peu plus scientifique et informatique au niveau de l'industrie. Et puis au bout de 2 ans avec mon mari aussi de l'ENS Lyon, physicien, qui venait de finir sa thèse en physique, on s'est dit, si on partait à l'étranger, on avait envie d'un peu de bouger. Et donc, moi, je me suis dit, je fais de l'informatique, je peux m'adapter à plein de choses. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je lui ai dit, bah, écoute, trouve une université où tu peux aller et moi, je te suis. Donc, il a trouvé, j'ai quand même dit, dans une ville pas trop petite. Et donc, il a trouvé à l'université de Columbia à New York. On est parti à New York et puis arrivé à New York, j'ai cherché du travail. Et c'est à l'époque où on est arrivé fin 2004. On est arrivé le lendemain de la réélection de George Bush. On s'est dit, oui. Est-ce une prédilection ? Je ne sais pas. Et du coup, j'ai cherché du travail. Et puis Google, c'était à ce moment-là où Google a commencé à beaucoup recruter. Là, j'ai appris qu'il y avait un bureau à New York et il y avait des thématiques assez intéressantes par rapport à la recherche que j'avais fait avant. Donc j'ai postulé au bureau de Google New York et puis je suis rentrée donc début 2005. J'ai travaillé pendant assez longtemps sur les algorithmes de recherche de Google Maps. Donc si vous allez sur les cartes de Google, vous pouvez faire des recherches par exemple de localisation, de ville, d'itinéraire, mais aussi vous pouvez faire des recherches par exemple quels sont les restaurants à New York, à Lyon, etc. Donc j'ai travaillé sur ces algorithmes-là. En parallèle de tout ce cas un peu plus technique, j'ai fait pas mal de volontariat en Haïti. Ça faisait pendant 5-6 ans, en fait, ça a commencé sur la fin de ma thèse. Une partie de la famille de mon mari étant d'Haïti, on a pas mal voyagé là-bas. Et au fur et à mesure de mes voyages, je regardais un petit peu comment les technologies étaient utilisées en Haïti, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de comment les gens utilisaient en fait ces outils dans leur vie de tous les jours dans un pays comme Haïti. Et il se trouve qu'à Google, quand on est ingénieur à Google, on peut choisir de passer 20% de notre temps sur un projet de notre choix, qui est d'une certaine façon quand même pertinent vis-à-vis de Google, mais qui est qu'on choisit. Et donc, j'ai passé une année à essayer d'étudier comment Internet était utilisé en Haïti, en regardant quelles sont les choses que les gens utilisent, quels sont les types de recherches qu'ils font, quelles langues ils utilisent, etc. Soit en faisant ça de mon bureau à Google, en regardant un peu toutes les analyses de log des serveurs, ou alors en allant en Haïti, dans des cafés Internet, regarder ce que les gens faisaient. Avec dans l'idée de dire si je peux trouver une thématique intéressante, je peux ensuite en parler à des gens autour de moi, les motiver et dire il faudrait qu'on fasse un projet là-dessus. J'ai fait pas mal de cette recherche l'été 2009. Et donc, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2010, il y a plusieurs personnes à Google qui se sont dit on ne peut pas rester sans rien faire, il faut qu'on aide. Et donc, le mot est passé que j'avais déjà travaillé avec Haïti, j'ai été contactée pour essayer de mettre en place, pour aider. C'était vraiment au départ très, très vague, c'est-à-dire on ne peut pas rester sans rien faire. Et notamment, un des problèmes qu'on voyait beaucoup dans la presse, c'était des gens qui essayaient d'être en contact, et moi j'étais dans cette situation puisqu'on avait de la famille en Haïti, essayer de savoir si les personnes qu'on connaît en Haïti vont bien, le téléphone ne passait plus, que ce soit la voix ou les SMS. Il y avait des fois une partie d'Internet qui pouvait marcher ou pas, etc. Et donc, avec des collègues, on a mis en place un système pour essayer de rechercher les personnes disparues qui s'appelle Person Finder. Donc, c'est en fait un site web où vous pouvez aller mettre le nom, des descriptions de la personne que vous recherchez, et d'autres personnes peuvent mettre des informations en disant « oui, j'ai entendu que cette personne est vivante ou est à tel endroit, etc. » Et donc, à la suite de ça, on a fait pas mal de choses, et avec des collègues, on s'est dit on ne peut pas juste faire quelque chose pour Haïti. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire au niveau de la technologie que tous ensemble, on est allé voir en fait des dirigeants à Google en disant il faudrait qu'on continue à travailler là-dessus. Et donc, à partir de là, en fait, on a créé une équipe qui s'appelle Google Crisis Response qui travaille sur comment utiliser les technologies au niveau de réponse dans le cas de crise humanitaire. Et donc, notamment, on a beaucoup travaillé sur le Japon. Et si des fois je bafouille, c'est parce qu'on a eu des nuits un peu courtes ces dernières semaines. Donc, je vais vous présenter là un petit peu ce qu'on a fait, ce qui a été fait depuis le début. Donc, voilà la première, une page qu'on a créée au moment du tremblement de terre en Haïti. Donc, c'est une page où on essaye de mettre toutes les informations que l'on a à propos de la crise, le plus rapidement possible. Ce qui est critique dans ces moments-là, c'est de mettre l'information disponible le plus rapidement possible. Donc, ça va à qui on peut donner, par exemple des organisations, mais aussi en bas, il y a par exemple des vidéos YouTube. En haut, on voit un petit peu vert et bleu, c'est le Person Finder dont je parlais. Et puis, des images... À droite, des cartes avec, par exemple, la localisation de toutes les villes, toutes les informations qu'on peut avoir sur des cartes. Voici, par exemple, en particulier, le Person Finder dont je parlais, où vous pouvez soit cliquer « je recherche quelqu'un » ou « j'ai des informations sur une personne ». Et l'idée, c'était en fait de... Il y a plusieurs sites qui ont été créés comme ça, notamment il y a une grosse diaspora haïtienne aux États-Unis. Donc, il y avait par exemple le site de CNN, de Wall Street Journal, de la Croix-Rouge. Et donc, on a créé ce système pour faciliter l'échange de toutes ces données. Que si vous recherchez quelqu'un, vous pouvez aller le chercher sur... Il peut être sur plein de sites, mais si vous allez à un endroit, vous pouvez trouver ce qui est sur plusieurs sites, en fait. Voici une autre image. C'est le trafic Internet qui venait d'Haïti. Donc les pics comme ça, c'est la journée, ensuite la nuit, et vous pouvez voir que le 12 janvier, en fait, à 5 heures, ça a été coupé net. Y a toutes les infrastructures Internet sont tombées pendant plusieurs jours. Et donc mon équipe a travaillé activement. Donc voilà, j'oubliais comment. En fait, Haïti n'était pas forcément très bien câblé. Vous voyez à gauche ce qui est en orange, c'est un des câbles qui arrivait dans la baie d'Haïti. Et là où il y a la croix, c'est là où ça s'est cassé. La seule liaison qui restait, c'était une liaison radio, là en pointillé, qui ralliait en fait à la République dominicaine. Donc en fait, en traçant nous-mêmes à l'intérieur de savoir où l'information arrivait, on a pu réussir à localiser où c'était tombé et aider les gens à réparer. Donc on a travaillé avec les providers... Internet qui sont en Haïti, Access Haïti, Multilink, mais aussi avec beaucoup d'ONG, telles que NetHope, qui est en fait une ONG qui travaille au niveau technologique, pour fournir des supports technologiques aux ONG. Et on a envoyé des palettes et des palettes. Ça, on ne pense pas toujours à l'aide humanitaire. On pense à il faut des médecins, de l'eau, etc. Mais on a envoyé des palettes et des palettes de serveurs pour rétablir Internet en Haïti. Donc vous pouvez voir, en fait, à ce niveau-là, une semaine après le tremblement de terre, on avait rétabli à peu près le niveau Internet jusqu'à 50% de ce qu'il y avait avant, à l'heure actuelle, on est de retour à peu près au même niveau. Et ça a été critique, ça, au niveau de tous les secours sur place, etc. Quelque chose d'autre qu'on fait beaucoup, c'est la collecte d'imagerie satellite. Ici, c'est une photo du club de golf de Pétionville à Port-au-Prince, avant le tremblement de terre. Voici la photo un jour après le tremblement de terre, où vous voyez des gens qui arrivent sur le club de golf. Et 13 jours après, c'est maintenant en fait un camp qui malheureusement existe toujours, où il y avait je crois, plus de 40 000 personnes qui continuent à vivre à l'heure actuelle sur ce golf. Cette imagerie, elle est cruciale dans les cas de catastrophe, puisqu'on peut faire de l'analyse automatique. Ici, on peut essayer de faire de l'analyse où les camps ont été mis assez rapidement. Et si on met à jour cette imagerie régulièrement, c'est utilisé sur place par des organisations comme les Nations Unies, comme la Croix-Rouge. Pour Haïti, c'est la première fois où tous les fournisseurs d'imagerie satellite, puisque nous, ces imageries satellites, on les achète à des fournisseurs, ils sont tous mis d'accord pour les mettre téléchargeables gratuitement pour toutes les organisations, notamment les Nations Unies. C'est la première fois de toute leur histoire que qu'ils ont accepté de faire ça. Alors, plus récemment, on a lancé une... Voilà la même page qui a été lancée en fait pour le séisme au Japon avec le tsunami. Notamment, on a lancé, on voit en bas, Person Finder, en une heure après le tremblement de terre, qui a été utilisé par des millions de personnes. Il y a plus de 300 000 noms listés, des gens qui essayent de se retrouver les uns les autres, puisque le téléphone ne marchait plus, mais Internet marchait. Notamment ici, vous allez voir... C'est un outil qui s'appelle Google Transparency Report. Donc, si vous allez sur Google et vous cherchez Transparency Report, vous trouverez, et ça permet de voir toutes les requêtes qui viennent du Japon. Et dans ce cas-là, c'est pour le produit Google Maps. Internet n'a pas été coupé du tout au Japon. Internet n'a pas été du tout été impacté par le tremblement de terre par rapport à Haïti, par exemple. Et voir, ça a été, on voit pour ici, dans le cadre de Google Maps, beaucoup plus de gens qui sont allés sur Google Maps, qui sont allés sur Internet pour trouver de l'information. Alors, je vais juste souligner ici que donc, cette équipe, Google Crisis Response, donc, l'idée, c'est de mettre à disposition toutes ces technologies au profit de toutes ces organisations qui travaillent sur place pour leur amener encore plus d'informations pour que ces organisations soient encore plus efficaces. Mais on n'est pas tout seul, bien sûr, et on travaille avec toute une communauté. Ici, je mets Yushahidi. Yushahidi, c'est un groupe de jeunes bénévoles qui se sont mis ensemble après les révoltes au Kenya en 2008. Donc, ça a été créé au Kenya. C'est un outil logiciel qui permet de mettre sur une carte, de faire ce qu'on appelle en anglais du crisis mapping, de mettre sur une carte tous les événements qui se passent. Donc, ce soit, par exemple, il y a un feu qui vient de se déclencher ici, on a entendu des tirs ici, il y a besoin d'un médecin ici, etc. Vous pouvez mettre à jour avec votre téléphone, avec des outils comme Twitter, Facebook, etc. Donc, on travaille beaucoup avec Yushahidi, mais d'autres, juste pour les mentionner, Sahana, Crisis Mapper, ce sont tous de la communauté qu'on appelle open source, ce sont tous des gens qui sont soit dans des personnes qui travaillent dans différentes industries, des chercheurs dans différentes universités, des développeurs bénévoles qui mettent leur temps à disposition quand il y a des crises pour mettre en place des technologies pour aider pendant les crises. Et un exemple de ça, de ces gens qui se mettent tous ensemble, donc pour revenir au projet en Haïti, il y a ce projet qui a été mis en place le 4636, deux jours je crois après le tremblement de terre. C'est un numéro que vous pouviez faire sur votre téléphone en Haïti. Et vous pouvez envoyer un message texte au 4636. Ce message texte, en fait, la personne ici pouvait envoyer un message texte qui était envoyé à Digicel et Comcel, sont les fournisseurs de téléphonie mobile. Ces messages étaient envoyés à un site ensuite de volontaires sur un serveur aux États-Unis et propagés pour que ces volontaires traduisent les messages du créole en anglais. Ensuite, ces messages traduits étaient ici catégorisés en différentes demandes. Est-ce que c'est une demande d'aide, je suis coincée à tel endroit? Est-ce que c'est une demande qui dise, est-ce que vous pouvez dire à telle personne que je suis vivant, que je suis à tel endroit? Dans ce cas-là, ça arrivait dans Person Finder. Est-ce que c'était d'autres types, par exemple, il y a un problème d'eau ici, il y a un feu à tel endroit. Dans ce cas-là, ça allait à USAID. Les requêtes qui étaient « je suis bloqué, j'ai besoin d'aide » étaient envoyées en fait à un système, un autre système de téléphonie pour envoyer des messages textes aux personnes sur place pour aller sauver ces personnes. Donc, que ce soit avec USCG, qui sont les gardes-côtes, merci, américains qui étaient en fait sur place pour aller aider, ou alors la Croix-Rouge. Donc en fait, on met la technologie en place pour mettre en connexion tous ces gens-là qui sont peut-être les uns côté des autres en Haïti, mais qui ne savent pas quelles sont les demandes ou qui ne savent pas où sont ces autres personnes. Et voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait.
Merci beaucoup Alice de ce que tu nous as présenté, du travail de nous avoir présenté ce travail-là. Peut-être une question, parce que finalement tu fais de la recherche, mais tu as fait le choix de faire de la recherche dans une entreprise et pas dans un laboratoire académique, dans une université. Ça t'est venu comment, cette idée de faire de la recherche dans une entreprise? Et est-ce que c'est du coup la même recherche que tu aurais pu mener ailleurs? Enfin, comment est-ce que tu as pu choisir cette voie particulière?
Alors, à la base, je n'avais pas forcément envie de faire de la recherche pour faire de la recherche. C'est vrai que j'avais juste envie de faire quelque chose qui m'intéressait. Et puis, quelque chose qui m'intéressait techniquement, mais aussi qui avait ce côté un peu social, comme je disais au début, un peu sauver la veuve et l'orphelin, qu'au bout d'un moment, j'ai réussi à mettre ensemble, mais un peu par différentes opportunités qui sont arrivées par différents endroits. Quand j'ai décidé de partir de mon post-doc, j'ai aussi réalisé que personnellement, j'avais du mal à travailler toute seule. Et même si en recherche, on n'est pas complètement tout seul, j'avais du mal à me motiver toute seule. Voilà, quand je suis avec des gens autour, on est plusieurs à travailler sur un même problème, j'adore, je peux être moteur dans ces cas-là, mais je n'arrive pas à être moteur uniquement pour moi-même. Et je me rendais compte que pendant mon postdoc, j'étais toute seule sur un sujet, on avait une équipe avec des gens qui travaillaient sur des sujets un peu proches, mais j'étais toute seule sur mon sujet et j'avais énormément de mal. C'était vraiment, j'avais du mal à me motiver et je me suis dit, il faut que j'aille à un endroit où je peux avoir plusieurs personnes qui travaillent sur un même sujet tous ensemble. Et j'ai eu du mal à trouver ça au niveau académique et du coup, je suis partie dans l'industrie. Sachant que les 2 ans où j'ai travaillé en France, ce n'était pas dans la recherche. Donc j'ai fait là plutôt du développement informatique classique, mais je pense que c'est ce qui m'a permis la combinaison de l'expérience que j'ai eue de l'enseignement que j'ai reçu à l'ENS et de ma thèse académique avec 2 ans d'expérience industrielle. Finalement, c'était le combiné parfait qui m'a permis de rentrer à Google. Puisque à Google, on doit avoir à peu près 30% de nos ingénieurs qui sont docteurs. Et c'est un atout dans ce que tu disais tout à l'heure, la capacité de synthèse, un certain esprit critique, organiser son travail, etc. C'est quelque chose qui est clé pour ce que je fais à l'heure actuelle à Google.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Michel Coquerick n'est pas... Non. Ah.
Là encore, je suis très intéressé par la façon dont vous avez raconté votre cheminement, vos hésitations, et en même temps votre motivation profonde. Et au moment où vous retrouvez à Google, vous retrouvez finalement une des choses qui était dans vos cordes, enfin, aider aussi, car il n'y a pas de doute que la preuve est faite par ce système d'information ultramoderne, quoi. Les relations peuvent se faire entre des morceaux épars et perdus. Mm-hmm. Et ça me passionne. Parce que moi, je pratique Google simplement parce que je suis ancien géographe et urbaniste, pour les cartes. Et je trouve que c'est un instrument absolument fabuleux qui doit complètement transformer la pédagogie, enfin la pédagogie de la géographie en particulier, mais comme de toute façon on ne s'occupe plus de former les professeurs, Je crois que personne n'en parlera plus, hein, puisque c'est autre. Mais vous, finalement, sur l'ensemble de l'après-midi, moi je remercie l'association des anciens élèves, des élèves et des anciens élèves, de vous avoir contacté d'avoir prévu dans cette journée, cet après-midi formidable, où toutes les quatre, vous nous avez vraiment, moi ébloui, je dois vous le dire. Moi, il a fallu que j'attende l'âge de la retraite pour faire 6 ans d'école des beaux-arts de la ville de Paris, pour apprendre la gravure, etc. Bon, je n'ai pas été malheureux, j'ai fait une belle carrière, j'ai été directeur de l'école, j'ai ceci et là. N'empêche que j'aurais aimé faire les beaux-arts. Ce n'est pas fait. Bon, il a fallu que j'attende 65 ans, 66 ans. Quoi. Bon, vous êtes des battantes. Vous êtes des battantes maintenant. Et ça, c'est formidable.
Juste pour vous répondre, il y a une thèse qui s'est soutenue il y a 2 ans sur l'utilisation en classe des globes terrestres, notamment de Google Earth, dans les classes. Donc il y a des recherches qui sont faites là-dessus. La thèse de Sylvain Genevoix, une très belle thèse. Voilà.
Oui, juste une question sur le système qui a été présenté. J'ai aucune culture scientifique ni informatique ni quoi que ce soit. Donc, excusez toute erreur de terme qui vous paraît très grossier. Vous avez décrit ce système notamment d'appels qui renvoyaient des SMS, des messages vers vos serveurs. Est-ce que c'est exactement le même système qui a été à un moment utilisé dans le cadre de la révolution égyptienne, je crois, qu'à un moment il y avait exactement le même système pour... Donc c'est le premier élément de ma question, mais c'est ce deuxième élément, c'est on voit le mot crise dans votre... définition. Et est-ce que de là, la philosophie d'entreprise de Google, c'est de dire que un des droits les plus un des droits politiques les plus importants dans notre société, c'est celui de pouvoir librement communiquer, sachant, bon, bien évidemment, sans vous faire de procès, toutes les tensions que la liberté d'Internet pose à Google et à d'autres entreprises. Est-ce que ça, vraiment, ce schéma de gestion de crise est aussi une réponse politique de Google, en fait?
Alors, pour la première question, en fait, c'est des systèmes séparés. Ce qui a été mis en place, en fait, en Haïti, ce que je présentais dans ce transparent-là, c'est pas par Google. Google était un des, avec l'outil Person Finder, était un des participants. Mais en fait, là, il y a beaucoup de groupes. Il y avait le groupe Instead, le groupe Ushahidi, etc. Donc ça, en fait, c'est un système qui a été mis en place par une collaboration de plein de gens. Ce qui a été mis en place en Égypte et qui s'appelle Speech to Tweet. Donc, quand Internet a été coupé en Égypte, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir, c'est assez intéressant, dans l'outil Google Transparency Report, vous pouvez aller voir, par exemple, en Égypte, et vous pouvez regarder l'utilisation de Google en Égypte, et puis c'est comme ça, et puis pouf, pendant une semaine, et après, ça remonte. C'est en fait non, un outil, le Speech to Tweet, qui a été développé au moment de la crise en Égypte. Et notamment, en fait, c'est assez marrant, par Google venait d'acquérir une société en Europe, je ne sais plus quelle, je crois, Europe méditerranéenne, je ne sais plus quel pays exactement, qui faisait beaucoup de la voix sur Internet. Et c'est les gens de cette société, dont une des personnes, je crois, est du Moyen-Orient, qui a développé cet outil-là, je crois, leur premier jour à Google, en fait. Ça a été là. Donc ça a été des, et ça c'était donc indépendant de ce qui a été fait pour Haïti, mais ça a été aussi, je crois qu'ils ont essayé de le réutiliser dans d'autres pays. La deuxième question, alors l'équipe Google Crisis Response que j'ai pas mentionné, en fait fait partie du groupe qu'on appelle google.org, qui est en fait la fondation Google, qui est la partie philanthropique de Google. Donc Google finance, je crois, 1% de ses revenus pour la philanthropie. Il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, on a redéfini un petit peu la manière dont on gérait dont on faisait cette philanthropie. Avant, c'était beaucoup, on donnait des financements, on finançait différents projets externes, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ce qu'on sait faire de mieux, qui est notre engineering, notre génie d'ingénierie, et pourquoi pas mettre à disposition des ingénieurs pour travailler sur des problèmes plus sociaux, philanthropiques, etc. Donc, en effet, ça fait partie de... À l'heure actuelle, on répond surtout aux crises humanitaires, plus que des crises politiques, parce que c'est quand même c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais en effet, l'idée, c'est de dire, est-ce que, pour moi, alors ça, c'est mon opinion personnelle, qui est de dire, si on a des outils technologiques, des facultés technologiques qui peuvent sauver des vies, ne pas les utiliser, c'est comme ne pas donner assistance à personne en danger. Et quand on s'est tous décidé au moment d'agir pour Haïti, c'est tous des ingénieurs volontaires des quatre coins des bureaux de Google qui sont un peu partout dans le monde, et tout le monde s'est dit on ne peut pas rester sans rien faire, il y a un besoin technologique, il faut qu'on aide. Mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, la liberté d'expression et la liberté d'expression sur Internet, elle est de plus en plus importante, et on voit avec tout ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient.
D'autres questions ? Alors moi j'en ai une, c'est toujours la même. Comment est-ce qu'on perçoit l'ENS ? Bah, on est là pour en parler. Ouais. Comment est-ce qu'on perçoit l'ENS à Google ? Enfin, c'est connu, ouais. Pas connu, ou même aux États-Unis ?
Alors, c'est pas forcément très connu. Alors ça dépend des endroits, je pense, puisqu'à un moment, avant de rentrer à Google, j'ai passé des entretiens dans une... je m'entraînais à passer des entretiens dans différentes sociétés. J'ai bien fait d'ailleurs, parce que c'est une façon de passer des entretiens très différents en France. Et j'avais fait des entretiens dans une boîte, dans une banque, et des gens connaissaient l'ENS, puisqu'au bout d'un moment, ils m'ont dit « Ah bah tiens, tu viens de l'ENS, donc tu dois aussi bien connaître les maths, donc on va faire des maths. » Alors là, ça a été catastrophique, parce que c'était il y a trop longtemps, je me souviens plus de pas mal de choses de maths. Donc là, ils connaissaient la partie ingénierie financière, connaissaient très bien l'ENS. À Google... c'est une boîte aussi assez jeune. Je pense qu'au début, on ne la connaissait pas forcément beaucoup, mais on est maintenant... en fait, on est 4 personnes de l'ENS de Lyon à Google. 2 à New York, 1 à Paris et 1 à Zurich. Il y a au moins, je crois, 3 ou 4 personnes de l'ENS de Paris aussi à Google. Donc, petit à petit, en fait, je pense que ce n'est pas forcément connu par... tiens, on sait que... ils ont la liste des écoles avec un classement, donc l'ENS est dedans, mais ce qui marche le mieux, c'est, bah tiens, on connaît quelqu'un de cette école et cette personne marche très bien. Donc en fait, c'est plus comme ça, et après on sait, bah voilà, regardez, telle et telle personne venait de telle école, donc cette école est bien. C'est en fait souvent ce qui marche le plus.
Bien, bah donc merci Alice, Katrina, Claire-Marie et Céline de nous avoir présenté vos parcours et vos réalisations très variées, très diverses. Merci à tous d'être restés cet après-midi.